Il est précisément 6h. Bon réveil à tous.
Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette excuse sur les embouteillages? Ils découvrent les embouteillages? Ça fait 40 ans qu'ils habitent ici, ils devraient être prévenus maintenant. À Paris, il y a des embouteillages.
Vous reconnaissez cette voix, cette gouaille. Jean-Pierre Bacri dans Cuisine et Dépendance. L'acteur est mort hier des suites d'un cancer. Son portrait, dès le début de ce journal. La perte de l'odorat, c'est l'un des symptômes du Covid. À Bordeaux, l'Institut de la Vigne et du Vin a mis au point un programme de rééducation olfactive plutôt pratique pour ses futurs œnologues. La crise et ses conséquences sur l'état mental des étudiants. Le gouvernement tente de les accompagner. Emmanuel Macron devrait aller à leur rencontre jeudi. Dans ce journal, quel avenir pour l'Eurostar, un seul aller-retour entre Paris et Londres chaque jour contre une douzaine habituellement. Et la situation sanitaire ne va rien arranger. À Washington, à la veille de l'investiture de Joe Biden, les militaires de la garde nationale sont passés au crible alors que les autorités craignent une attaque de l'intérieur lors de la cérémonie. Et puis l'histoire d'une ascension fulgurante à la fin de ce journal, celle d'Alexandre Mazzia, chef marseillais qui vient d'obtenir sa troisième étoile au Michelin.
À suivre la page des sports avec Jérôme Lacroix et mon invité inattendu pour un hommage à Jean-Pierre Bacri. Témoignage ce matin de quelqu'un qui a travaillé au plus près de lui sur les plateaux de tournage. Alors Bacri était-il aussi râleur en vrai que dans ses films? Il va nous raconter dans un petit quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Il était justement l'éternel râleur du cinéma français, ou plutôt réputé comme tel, avec sa voix, ses sourcils froncés, ses coups de gueule. Jean-Pierre Bacri est décédé hier des suites d'un cancer. Il avait 69 ans. Figure du cinéma et du théâtre, nombre de ses films sont devenus des classiques. Cuisine et Dépendance, Didier, ou plus récemment Le Sens de la Fête. Retour sur 40 ans de carrière avec Mathieu Charrier.
Jean-Pierre Bacri est né en Algérie. Son papa était facteur la semaine et ouvreur le week-end au cinéma. Star à Alger, un destin presque tout tracé. Pourtant, lui voulait devenir professeur de français, mais à l'âge de 23 ans, Bacri monte à Paris, suivre des cours d'art dramatique. Et quelques années plus tard, en 1987, il rencontre Agnès Jaoui, avec laquelle il va former un duo à la ville comme à la scène, les Jabac, comme les surnommait Alain René, de Cuisine et Dépendance en 1992 jusqu'à Place Publique il y a 3 ans, en passant par Un air de famille ou Le goût des autres.
On se prend les horaires, on est à table et puis on...
De 15 à 19 heures tous les jours.
Voilà, et puis c'est pour ça qu'on discute, on est ensemble, on parle, on se censure.
Alors Jean-Pierre Bacri, c'est 40 ans de carrière révélé par son rôle de proxénète dans Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadie, 40 ans de carrière de comédien, mais aussi de scénariste, dramaturge, une cinquantaine de films, Didier, Mes meilleurs copains, La cité de la peur, et cette image donc... De Bougon.
Je ne vois pas des rôles de Bougon, c'est peut-être ma personnalité à moi qui fait que je m'approprie les rôles et qu'à travers ces rôles, vous voyez une partie de mon caractère.
Le succès est une chose très bizarre, disait Jean-Pierre Bacri, auréolé de 5 Césars et de 2 Molières. Il n'avait plus tourné depuis 3 ans, depuis le film Photo de famille, dans lequel il jouait un père râleur et désabusé.
Portrait signé Mathieu Charrier.
À la une également ce matin, près de 480 000 personnes ont été vaccinées en France.
Depuis hier, la vaccination est ouverte à toutes les personnes de plus de 75 ans et à celles et ceux qui souffrent de pathologies lourdes. Invité sur France 5 hier soir et alors que la polémique enfle autour d'une pénurie de doses, le Premier ministre Jean Castex a assuré que le gouvernement allait mettre, je cite, la surmultipliée. 430 000 injections supplémentaires vont être réalisées dans les EHPAD au cours des 2 prochaines semaines, a-t-il assuré.
La dysgeusie, l'anosmie, vous comprenez là la perte de goût et de l'odorat, c'est l'une des conséquences du Covid pour certains patients.
Et selon les cas, récupérer ses sens peut prendre plus ou moins de temps et cela pose problème pour les professions qui s'en servent comme outil de travail, les œnologues notamment. C'est pour cela qu'à Villenave-d'Ornon, l'Institut de la Vigne et du Vin de l'Université de Bordeaux a mis en place un centre de rééducation olfactive. Stéphane Place.
C'est fin septembre que le Covid est venu priver Amélie du goût et de l'odorat. Très progressivement, cette étudiante de 22 ans en première année d'œnologie, ici à l'Institut des sciences de la vigne et du vin, récupère ce sens indispensable, mais pas comme avant, il demeure parasité.
Si on prend l'exemple d'un vin rouge, une personne normale pourrait sentir des odeurs de boisé, des fruits, fruits frais, fruits cuits, etc. Et moi aujourd'hui, ces odeurs sont masquées par notamment une odeur parasite, comme un petit peu du pain grillé. C'est pas des très bonnes odeurs, on va dire.
D'où ce protocole de réapprentissage imaginé ici à l'Institut avec notamment un kit de rééducation à base d'huiles essentielles. Laurence Génie, directrice adjointe de l'ISVV.
Nous avons développé des petits stylos qui contiennent ces odorants. Un odorant fleur, un odorant de la famille des fruits, un odorant de la famille des épices et un odorant de la famille des herbes aromatiques. Tous les jours, ils doivent réaliser un exercice de flairage et répondre à différentes questions.
Sans oublier des exercices d'imagerie olfactive mentale, une méthode que l'Institut des sciences de la vigne et du vin détaille et met gratuitement à disposition de tous sur son site internet.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 à Bordeaux.
Les étudiants subissent de plein fouet la crise sanitaire, décrochage, isolement, précarité et les effets dévastateurs que cela comporte.
Mais plusieurs suicides ou tentatives ont été constatés au cours des dernières semaines. Plus de 50 000 messages interpellent la détresse psychologique des étudiants via le hashtag étudiants fantômes. Alors le gouvernement tente de faire face, Jean-Rémy Baudot, et de trouver la réponse adéquate.
Oui, et un indicateur inquiète particulièrement le gouvernement, illustre la détresse des étudiants. Les demandes de rendez-vous psy ont augmenté de 30% sur un an dans les Crous. À Matignon, Jean Castex, lui-même père de deux étudiantes, se dit très préoccupé. Il a annoncé vendredi un chèque de suivi psychologique pour les étudiants. Selon nos informations, il permettra de financer 3 consultations en ville. Le Premier ministre qui a aussi présenté les repas à 1 euro, le coup de pouce pour les boursiers, 200 euros en juin, 150 en décembre. On le refera si nécessaire, promet d'ailleurs la ministre Frédérique Vidal. Mais ces dispositifs n'ont pas calmé les craintes sur la paupérisation des étudiants. Il faut aller plus fort, plaide un cadre de la majorité. Sauf que le gouvernement est inaudible sur l'aide qu'il apporte. Voilà pourquoi Emmanuel Macron est contraint de descendre lui-même dans l'arène. Ce week-end, il a publiquement répondu à une étudiante de Strasbourg. « Il va falloir tenir », lui a demandé le président. Le chef de l'État, qui pourrait se déplacer jeudi dans une université de région parisienne pour y débattre avec des jeunes. Emmanuel Macron qui martèle régulièrement « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Une punchline toujours aussi valable en 2021.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Autre conséquence néfaste de la crise, mais aussi du Brexit, tous les voyants sont au rouge pour l'Eurostar.
Un trafic en baisse de 85% l'année dernière. C'est la SNCF qui détient plus de la moitié d'Eurostar, mais pour l'instant, ni la France ni l'Angleterre n'ont proposé d'aide. L'inquiétude monte des deux côtés de la Manche sur la pérennité du train qui permet de voyager entre Paris et Londres en un peu plus de 2 heures et qui circule désormais au compte-gouttes. Aurélien Fleureau.
Oui, il n'y a plus qu'un seul aller-retour quotidien en ce moment, contre une douzaine en temps normal. Et forcément, les salariés qui travaillent à bord des trains se retrouvent quasiment sans rien. C'est le cas, par exemple, de Nathalie.
Je me souviens d'un train où on était 3 à travailler pour 3 passagers en classe business. Je n'ai effectué que 5-6 trains depuis mars. Les gouvernements doivent aider parce qu'on ne peut pas laisser périr une société comme Eurostar. C'est un vrai cauchemar. Il faut sauver Eurostar. Enfin, ils vont le sauver, c'est juste pas possible.
Elle espère qu'avec la vaccination, le trafic pourra reprendre, mais en attendant, Eurostar est dans une situation financière très inquiétante, selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.
Aujourd'hui, la société est sous perfusion. Quand vous avez perdu 85% de votre trafic, l'entreprise Eurostar est en situation critique, très critique.
Et le problème d'Eurostar, c'est d'être une entreprise française en Angleterre et anglaise en France. Une solution est tout de même à l'étude, un prêt du gouvernement anglais. Mais pour l'instant, rien de concret. C'est ce qui a forcé un groupe de chefs d'entreprise londoniens à demander à Boris Johnson un soutien financier rapide à la compagnie qui assure des liaisons entre Londres, Paris, Bruxelles et Amsterdam.
Les explications d'Aurélien Fleureau.
6h08 sur Europe 1 aux États-Unis. C'est demain que Joe Biden prendra ses fonctions à la Maison-Blanche. Sa cérémonie d'investiture va se dérouler dans des conditions bien inédites.
Et pas de public, Washington bunkérisé, totalement bouclé par la garde nationale, à cause du Covid aussi, mais à cause du Covid évidemment, mais aussi des risques sécuritaires. Et le déploiement militaire dans la capitale fédérale est extrêmement contrôlé, car les autorités craignent une menace interne, Alexis Guilleux.
Oui, et c'est la hantise des autorités, voir un des 25 000 membres de la garde nationale présent à Washington commettre une attaque contre l'investiture. Le Pentagone dit redoubler de vigilance et assure que les profils des militaires déployés dans la capitale ont été analysés plusieurs fois. Pour le major général William Walker, commandant de la garde nationale du district de Columbia, c'est un processus tout à fait classique pour ce genre d'événement.
C'est juste une protection, puis une autre par-dessus, pour être absolument certain. Les soldats sont examinés avant de quitter leur état. Et ils sont examinés à nouveau. Un contrôle régulier des antécédents est renforcé.
Et le Pentagone assure qu'à l'heure actuelle, aucune preuve de menace n'est sortie de ces contrôles renforcés.
Alors Alexis, est-ce que les autorités en font trop ou est-ce que cette menace intérieure est bien réelle ?
Eh bien déjà, les autorités américaines veulent montrer qu'elles prennent très au sérieux la menace après l'échec de l'encadrement de la manifestation du 6 janvier. Une marche à laquelle ont participé des membres ou anciens membres de l'armée. Ashley Babbitt, par exemple, la femme tuée dans le Capitole, était une ex-militaire. La semaine dernière, un caporal de la garde nationale de Virginie a lui été arrêté. On l'avait vu sur une photo à l'intérieur du Capitole. Et puis il y a ce chiffre publié l'an dernier par le Military Times qui témoigne de cette menace interne. Dans un sondage, plus d'un tiers des soldats interrogés disaient alors avoir été été témoin de cas de suprémacisme blanc ou d'extrémisme dans les rangs de l'armée.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Et puis, il est ce qu'on pourrait qualifier un enfant prodige. Le chef marseillais Alexandre Mazzia a décroché hier sa 3e étoile au guide Michelin, au bout de quelques années seulement.
Alexandre Mazzia a ouvert son restaurant en 2014. Alors évidemment, comme tous les établissements, il est fermé depuis des mois. Mais il a choisi de continuer à régaler ses clients en installant un food truck dans les quartiers sud, Stéphane Frangy.
Pour garder la tête hors de l'eau, entretenir la passion et ne pas subir ce confinement comme il le résume lui-même, eh bien c'est donc à bord de Michel qu'il entretient la flamme. Michel, c'est sa camionnette stationnée dans le sud de la ville et baptisée ainsi en hommage à son grand-père, un pêcheur breton. Ses paniers repas à une vingtaine d'euros attirent les curieux et cet ancien basketteur de 44 ans poursuit ainsi sa cuisine audacieuse où le sorbet framboise est relevé à l'harissa, le tiramisu saupoudré au curry et le chocolat fourré à l'anguille fumée. Si, si, la cuisine d'Alexandre Mazzia, c'est un petit peu son histoire, son parcours de sa naissance, les saveurs de son enfance à Pointe-Noire au Congo jusqu'à Marseille après avoir parcouru le monde. Le voilà donc récompensé une nouvelle fois en 2 ans et bien impatient d'ouvrir à nouveau les portes de son restaurant AM avec cette fois-ci un tout nouveau macaron Michelin à la porte.
Stéphane Frangy a noté qu'Europe 1 a concocté pour vous la carte des 100 restaurants étoilés à moins de 35 euros. C'est à retrouver sur notre site europe1.fr.
Il y en a un peu partout en France et certains, un bon nombre, font des plats à emporter. Allez voir cette carte sur europe1.fr et puis on va reparler à une chef tout à l'heure à 6h40. Claire Vallée, elle a décroché sa toute première étoile au Michelin et c'est historique parce qu'elle est la toute première chef vegan d'un restaurant entièrement sans viande a décroché une étoile au Michelin près d'Arcachon. Elle est avec nous tout à l'heure à 6h40. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1.